Allez, photographe, elle a deux passions, le voyage et la photo. Le voyage, là aussi dans le voyage, eh bien, elle a deux endroits très 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 privilégiés. Les Indes, l'Inde précisément, et le Pays Basque. Et son métier, sa passion majeure également, c'est la photo. Olivier Vinch est allé la rencontrer, devinez où, on en parle dans quelques minutes. Dis donc, chez Séverine Dabadi, elle est photographe à son actif, il y a déjà 4 albums, 2 aux Indes, 2 au Pays Basque. Elle partage d'ailleurs sa vie entre Bénarès d'un côté et Saint-Jean-de-Luz de l'autre. Pour la rencontrer, Olivier Vinch s'est donc rendu à Saint-Jean-de-Luz. Étonnant, non?
Alors ici, on est sur la place Louis XIV, au bar de la Marine, qui se situe donc juste à toute proximité du port de pêche. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de bateaux, ce qui est bon signe, ce qui veut dire qu'ils sont partis pêcher. C'est un des plus beaux endroits de Saint-Jean et un des plus beaux endroits du monde aussi, hein, toute la baie de Saint-Jean.
Vous aimez bien la proximité de l'océan ou de l'eau en général? C'est l'océan ou c'est l'eau? L'eau douce, ça marche aussi?
Ça marche moins bien, l'eau douce. Moi, je suis née à Biarritz, à 50 mètres des falaises. À l'âge de 4 ans, j'ai atterri à Socoa. Et voilà, et j'ai passé donc toute ma vie entre Saint-Jean, Cibourg, Socoa. Et donc, j'ai passé mon enfance à voir partir les bateaux, à moi-même naviguer un peu avec mes parents, à envoyer. Et donc, voilà, être passionnée par ces bateaux de pêche qu'on voyait. Et à l'époque, le port de pêche était rempli de bateaux qui étaient magnifiques. C'était les bateaux qui avaient été construits pendant les années 50, à l'époque de la pêche, des départs sur Dakar. Donc c'était l'âge d'or du port de Saint-Jean, il en restait encore quelque chose. Et puis petit à petit, ces bateaux ont commencé à disparaître. Et à disparaître parce que les ressources en poissons ont diminué. Donc voilà, l'Europe, les ministères s'en sont occupés. Et donc il y a eu les lois Mélic qui ont marqué un coup d'arrêt à cette grande époque. C'est-à-dire que pas assez de poissons, trop de bateaux. Donc il fallait éliminer des bateaux. Pour éliminer des bateaux, il fallait inciter les gens à mettre ces bateaux à la casse. Et donc il y avait des primes, qui étaient les primes liées à la loi Mélic. Et qu'on t'envoyait toutes ces magnifiques coques à la casse ou qui ont été immergées, noyées, coulées au large de la fosse de Cabreton. Et ces magnifiques bateaux qui faisaient le prestige du port, ben, il n'en reste plus que 2 témoignages encore sur le port. Le petit bateau Pachikou qui a été récupéré par une association de passionnés. C'est un petit bateau de 14 mètres, je crois. Mais c'est un bateau de plaisance qui est absolument magnifique. Et le seul et unique rescapé de cette grande époque et qui navigue encore et qui pêche, c'est ce bateau à Irocha, avec lequel l'équipage de Didier Martinez continue de travailler.
Vous avez consacré un livre de photos hein, à ce bateau et à son équipage, avec toujours Christiane Cesareta. Alors vous, c'est les photos et elles, ce sont les textes.
Oui, alors on fait les textes à deux, mais le projet est entièrement élaboré à deux également. Ensuite, je suis la seule à partir réellement faire des photos sur le terrain. Mais c'est vrai que le travail qu'on fait avec Christiane, on se connaît depuis quasiment le début de l'adolescence, donc on se connaît par cœur, on est capable de se dire les choses directement et construire des projets qui finalement complètent sa vision des choses et aussi la mienne. C'est vraiment un partage dans la création.
Pour vous, la photo, je crois que j'ai 4 de vos livres sous les yeux, c'est le reportage photographique.
Oui, alors j'essaye de faire du reportage, mais je suis auteur-photographe. C'est-à-dire que j'essaie non pas de faire une retranscription fidèle de la réalité, mais en tant que photographe, je m'appuie sur cette réalité-là. Donc j'essaye de, quelque part, la transcender, l'interpréter, cette réalité.
Elle est passionnée, elle est passionnante. C'est Séverine Dabadi qu'on retrouve dans un instant sur France Bleu Pays Basque.
Saint-Jean-de-Luz avec eh bien, Séverine Dabadi, sa passion c'est la photo. Déjà, 4 de ses albums ont été édités, l'un consacré à Bénarès et à ses rites sur les bords du Gange, un second qui nous fait découvrir des lutteurs indiens, un autre encore qui nous entraîne dans la vallée du Bastan. Au Pays Basque Sud, à la découverte du jeu de la Shoah, ancêtre de la pelote, le dernier qui vient de paraître est consacré à la pêche traditionnelle, telle qu'on la pratique à Saint-Jean-de-Luz. À bord de l'Aérocha. Bref, pour Séverine, la photo, c'est d'abord un témoignage.
Et il y a ce témoignage, et comme je vous disais, j'ai parfois l'impression d'être un peu la Sainte Rita, la patronne des causes désespérées, et de, grâce à la photographie, essayer de retenir un peu ces choses évanescentes qui nous filent entre les doigts.
Le temps, hein, c'est ça, puisque la photo, c'est arrêter le temps, on est bien d'accord.
Et après, moi, je suis une grande nostalgique. Oui, j'apprends de l'avenir avec optimisme. Bien sûr, je vais foncer dans le futur avec appétit. avec enthousiasme. Mais il y a tout ce passé qui nous a construit, qui est en train de nous filer dans les doigts. Je ne suis pas sûre que la modernité va nous apporter que des bonnes choses. Donc il faut construire le futur en s'appuyant sur le passé. Les historiens font ça très bien et je pense qu'en tant que photographe, on a le devoir aussi de témoigner de ces choses-là. Et la photo a un pouvoir absolument magique dans ce sens.
C'est bien comment tu as la magie ? Votre premier appareil, votre première photo, quel âge vous aviez, ça se passait où, vous vous rappelez ?
Alors, ma mère me raconte que quand j'étais enfant, j'ai passé des années avec un vieux boîtier à l'époque, vous voyez, où il y avait un petit tube, on voyait l'image à l'envers, qui était cassé. Et donc, voilà, j'ai passé des années à l'avoir dans les pattes et à m'amuser à cadrer comme ça et à cliquer sans avoir de pellicule à l'intérieur. Et ça, c'était vraiment quand j'étais très enfant. Et c'est vraiment un souvenir qui est revenu après. Moi, je l'avais complètement oublié. Mais tout a commencé, en fait, quand j'étais à Saint-Thomas d'Aquin à l'époque et j'étais en seconde littéraire. Et on avait quand même des cours de physique-chimie. Et le professeur, M. Recalde, voyant que notre enthousiasme n'était pas démesuré pour la physique et la chimie, a demandé aux quelques-uns qui n'étaient pas vraiment très intéressés de lever le doigt pour voir ce qu'on pouvait faire. Et donc, moi, j'ai immédiatement levé le doigt. Je n'étais pas du tout intéressée par la matière. Et donc, il nous a amenés dans le petit labo photo du lycée. Et c'est là donc, que j'ai vu la première photo apparaître dans le bac du révélateur.
Voilà, là, la chimie vous a intéressé tout d'un coup.
Et alors là, tout d'un coup... Ah non, mais ça a été un choc immédiat. Moi, j'ai pris ça comme une sorte de petit miracle. J'ai été vraiment bouleversée, fascinée par une réalité comme ça qui était en train d'apparaître progressivement. Et ça m'a paru incroyable. Et donc... Au départ, c'est vraiment le travail de labo qui m'a intéressée. Mais durant toute l'année, développer, tirer les photos des 4-5 autres copains qui étaient là, bon, c'était intéressant, mais j'avais aussi envie de développer mes propres photos. Donc à ce moment-là, voilà, mon père avait un petit Olympus OM-10 qui me prêtait, mais alors, il fallait faire très 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 attention, c'était toujours un peu tendu en faisant les photos, j'avais peur d'abîmer l'appareil de mon père. Et donc assez rapidement, voilà, comme on le fait quand on a 16-17 ans, j'ai fait
un petit boulot
et tout ça, et je me suis payé mon premier appareil, et en suivant le premier labo, et tout a continué comme ça, et puis finalement, après des gens sont venus me mettre le doigt encore plus dans l'engrenage, et il s'est accéléré, il y a un monsieur qui s'appelait Jacques Sainsou, qui était photographe à Cibourg, et qui m'a accueilli dans son atelier photo sur le quai Ravel pendant des années j'ai partagé son atelier et lui a partagé son savoir-faire avec moi avec passion et une gentillesse incroyable et à partir de là j'étais cuite.
En ce moment, l'expo Aïe Rocha, écume de mer à la librairie qui se trouve tout près de l'office de tourisme de Cibourg, c'est au quai Ravel pour cette exposition. Profitez-en, Aïe Rocha, écume de mer. Rendez-vous demain, je suis bienvenue chez Séverine Dabadi sur France Bleu Pays Basque à partir de 13h30.
Aujourd'hui, Olivier Vinche s'est installé à Saint-Jean-de-Luz sur une terrasse de la place Louis XIV en compagnie de Séverine Dabadi. Toute petite déjà, Séverine manipulait un appareil qui ne contenait pas de pellicule. Plus tard, au lycée Cassin à Bayonne, son prof de chimie avait monté un atelier photo et ce fut la révélation. Néanmoins, dans son entourage, il y avait quelques réticences.
On m'avait expliqué à la maison que photographe, c'était pas un métier, alors que réellement, oui, dès l'âge de 17-18 ans, bien sûr, je voulais en faire un métier. Donc je suis partie à la fac à Bordeaux et donc je me suis retrouvée dans l'enseignement. Et donc je suis restée suppléante pendant 17 ans, question de continuer à faire mon travail de photographe. Et puis il y a eu un moment où finalement un choix s'est imposé il y a 5 ans. Je me suis lancée uniquement dans la photo. À partir du moment où voilà, ça commençait à fonctionner bien, où je commençais à avoir des projets et des gens qui me suivaient dans mes projets. Donc je me suis dit 40 ans d'école, ça suffit. Ça serait peut-être un petit peu abusé quand même. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et donc je me suis dit voilà, j'ai adoré mon métier d'instit, mais voilà. La photo est une passion dévorante et maintenant je me retrouve dans une situation où je ne fais que de la photo et donc je ne peux pas vous dire que je suis malheureuse.
Bon. Construisez votre vie avec la photo.
Oui. En fait, je me définis comme photographe parce que c'est aussi une manière de vivre la photo. C'est une manière d'appréhender le monde, c'est une manière de voir les choses. On n'a pas besoin d'avoir toujours un appareil sur soi pour finalement photographier ou faire son travail de cadrage, de compréhension de la lumière ou de compréhension des situations. C'est toute une vie la photographie.
Donc là par exemple ça peut vous arriver de voir passer une personne ou un véhicule original, n'importe quoi, et dire ah si j'avais mon appareil
je passe quasiment toute ma vie à cadrer, en fait. Toutes les situations que je vois, parfois, enfin, mes amis le remarquent, je ferme un œil, sans s'en rendre compte, comme ça, dans des conversations, tout d'un coup, je ferme un œil et je cadre. Et je me fais des photos virtuelles, comme ça. Non, non, c'est une vraie passion. J'adore voir toutes les images. Je sais ce que j'aime en photo, mais je suis affamée d'images. Ça m'aide à comprendre ce que je dois faire, ce que je n'ai pas envie de faire, ce que je trouve bon en photo, ce que je trouve moins bon. Je m'appuie sur les milliers et les millions d'images qu'on peut voir maintenant. Et grâce à Internet et toutes ces publications qu'on peut avoir, on a des références de tous les côtés. Donc voilà, c'est un travail de tous les jours. En fait, je pense que l'acte photographique n'est pas un acte technique ni chimique. Je pense que pour faire de la photo aussi, il faut comprendre le monde, il faut comprendre ses contemporains, il faut envisager le monde, il faut avoir une certaine idée de ce que l'on veut montrer et de comment on veut le montrer. Donc en fait, ouais, c'est un travail permanent.
Un regard, allez, bon, c'est facile, on tombe tout de suite sur les mots. S'il faut un mec, il faut avoir un regard.
Oui, oui, c'est un regard. Cartier-Bresson disait que la photographie, c'était un acte qui passait par l'œil, la tête et le cœur. C'est vraiment trois choses comme ça qui doivent être mises dans une même ligne de mire. Et c'est ça qui fait la bonne photo.
Vous parliez de ce que vous n'avez pas envie de faire. Par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'on peut ranger là-dedans la photo publicitaire?
La photo publicitaire, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a des artistes, des véritables artistes là-dedans. Il y a des choses qui sont magnifiques dedans. Mais ce n'est pas mon propos et ce n'est pas le genre de photo qui m'intéresse. La photographie plasticienne aussi, c'est quelque chose.
Oui, les modèles, vous voulez dire tout ça.
Ouais. Oui, enfin, l'art contemporain qui utilise la photo, c'est intéressant, mais ce n'est pas mon propos du tout.
France Bleu Pays Basque, on est bien.
Quand elle n'est pas en Inde, du côté de Bénarès, la photographe Séverine Dabadie vit au Pays Basque. Son dernier livre est consacré à la pêche traditionnelle, telle qu'on la pratique encore sur l'Airocha, un bateau de bois amarré au port de Saint-Jean-de-Luz. Séverine a embarqué plusieurs nuits et photographié la vie à bord. Elle a parlé à Olivier Vinche de sa vision de la photographie.
Moi, c'est l'humain qui m'intéresse, en fait. Donc, bien sûr, évidemment, je fais des paysages, mais c'est pas. J'aime toujours qu'il y ait quelque chose d'humain. J'aime que dans mes photos, on puisse sentir le hâle des gens, qu'on puisse sentir presque leur transpiration, les émanations corporelles. Je veux qu'il y ait de l'humain dedans, ouais. Profondément.
De la photo charnue.
Oui, oui. Exactement, oui, tout à fait.
Oui, vous allez me raconter quand même. On peut aimer faire des photos, c'est pas pour autant qu'un éditeur va arriver. Je prends. Comment ça s'est passé? Alors, le tout premier, c'est celui consacré à Bénarès, là.
Oui, c'est le livre consacré à Bénarès. Ça, c'est un petit hasard. Je faisais déjà de la photographie à l'époque. Je n'étais pas vraiment professionnelle. J'étais
Alors, c'était quand à l'époque?
Le premier livre date de 2006, mais les photos ont commencé à être prises en 2003. Et donc, la première année où j'ai atterri à Bénarès, puisque, en fait, j'envisageais d'aller en Inde depuis l'âge de 16 ans, où j'avais vu un reportage sur les bords du Gange à Bénarès, et ça m'avait fasciné. Et je savais, moi qui étais déjà très vadrouilleuse, que c'était un bon prétexte à faire des photos et inversement, je savais que j'allais atterrir un jour sur l'Inde et précisément sur Bénarès. Et c'est arrivé très tard puisque j'ai eu cette envie à 16 ans et j'ai atterri à Bénarès à 38 ans. Je suis arrivée sur Delhi et directement je suis passée sur Bénarès où j'y ai passé 2 mois. 2 mois à photographier dans tous les sens, à essayer de comprendre tous ces mystères, à essayer de décrypter les choses, à essayer de me faire accepter. Et j'ai été bouleversée par la ville. Et finalement, j'y suis restée les 2 mois entièrement sans connaître le restant de l'Inde. Et donc quand je suis rentrée sur le Pays Basque, les photos avaient été projetées au festival Biarritz-Terre d'Images à l'époque pour lequel je travaillais. Et donc les photographies avaient reçu un accueil qui était très favorable et qui était enthousiaste. Donc j'étais assez étonnée et je me disais, mais qu'en penseraient des Indiens? Et donc l'année suivante, quelques mois plus tard, oui, à peine quelques mois plus tard, quand je suis revenue sur Bénarès, je suis partie montrer mes photographies à un gros libraire de la ville, sans savoir qu'il était également éditeur. Et à la fin de notre entretien, ils m'ont proposé de effectivement publier un livre. Alors imaginez, moi je suis une amoureuse des livres en général et de la photographie.
Et de l'Inde.
Et de l'Inde. Et donc quand on vous propose de publier un livre, et c'était pas n'importe quel livre, c'était un livre de 280 pages en couleur, couverture rigide, et il voulait en faire un objet de prestige pour sa maison d'édition, bah, j'étais très honorée et puis c'était en même temps un challenge qui m'effrayait quelque part. Et puis le projet s'est fait, le bouquin a bien marché et finalement ça a lancé l'aventure pour les 3 autres livres, les autres publications et tout s'est lancé à partir de ce projet-là.
C'est à ce moment-là donc que vous avez dit l'enseignement, hop,
stop.
Ça a pris quelques temps, ça a pris encore quelques temps. C'était pas facile de gérer les choses. Je restais suppléante, justement, parce que j'aimais bien changer d'endroit, changer de classe, changer de collègues, voir diverses méthodes d'enseignement. Ça me passionnait, l'enseignement me passionnait. Mais de faire des suppléances me permettait d'être totalement libre par rapport à la photo. Donc effectivement, je m'éclipsais régulièrement plusieurs mois pour partir faire mes projets photographiques en Inde.
Voilà, elle est passionnée par l'Inde aussi, Séverine Dabadie, aussi par le Pays Basque. Son livre « Aérochère, écume de mer » est signé donc de Séverine Dabadie et Christiane Nietzsche-Sarreta et il est paru aux éditions Elkar. De la photographe Séverine Dabadie, ce pourrait être un jour comme aujourd'hui, sur une terrasse face au port de Saint-Jean-de-Luz. Séverine, il faut le dire, est une grande voyageuse et son pays fétiche, c'est l'Inde. Dans ce pays, sa ville préférée, c'est Bénarès. C'est-à-dire que le reste de la planète ne l'intéresse pas, non, bien sûr.
Pour tout vous dire, au départ, moi, je voulais voir le monde entier. Je voulais voir le monde entier. Seulement, je me suis retrouvée scotchée par la beauté de Bénarès. Et donc, voilà, il se trouve que ça fait 12 ans maintenant et 12 ans que j'y passe quasiment la moitié de l'année. Et pour tout vous dire, je continue à faire à une moyenne de 200 à 300 photos chaque jour sur Bénarès et je découvre encore des choses et des situations et des temples et j'ai encore de nouveaux projets, donc il y a encore des enthousiasmes qui sont encore en marche sur la ville de Bénarès, donc c'est pas fini.
Merci le numérique, hein, 300 photos par jour.
Oui, bien sûr, après c'est 300 photos à trier, à retrouver, donc ce sont les désavantages du numérique. Mais je suis pas une shooteuse folle, je suis pas le prototype du touriste japonais à Paris non plus. Et ces 300 photos-là sont réfléchies. Je suis issue de l'argentique, donc je pense que voilà, une photo ne devrait pas avoir à être recadrée, ni arrangée et dénaturée par Photoshop. Donc une photo, elle doit être bonne dès la prise de vue. Donc voilà, oui, c'est toujours réfléchi. Oui, il y a un certain nombre de photos, mais je réfléchis aux choses.
D'accord, donc la photo retouchée, c'est pas votre truc.
Non, je pense que... Enfin, je veux pas du tout jeter le blâme sur les gens qui utilisent Photoshop. Enfin, c'est une technique, mais c'est autre chose. Il m'arrive de l'utiliser, mais c'est quand même vraiment très très rare. C'est plutôt pour réajuster une ligne d'horizon ou pour enlever des taches sur le capteur ou rehausser un contraste, mais vraiment jamais plus que ce que je n'aurais fait sous un agrandisseur. C'est un peu ma devise parce que ça concerne que moi, ça, parce que je ne veux pas jeter l'opprobre sur les gens qui le font. Mais moi, je ne me vois pas tricher avec l'image. Je ne m'imagine pas, ce n'est pas dans ma conception. Dans ma conception de la photographie, il y a une dimension qui n'a rien à voir avec la technique et qui a à voir avec l'intention. C'est-à-dire que je pense que la manière dont on fait les photos, dont on interagit avec le sujet ou avec les gens qui sont autour, la manière dont on va tirer les photos, le respect qu'on va mettre par rapport à son sujet est tout aussi important que la beauté objective de la photographie. Elle doit être faite avec de belles intentions. Voilà, il faut que ce soit le plus puriste possible.
Alors revenons en Inde. Vous y passez 6 mois par an maintenant. Vous parlez quelle langue ?
Alors, à la base, je parlais en mauvais anglais, comme tout bon.
Comme les Indiens font aussi, sûrement.
Oui, alors, en mauvais anglais avec un accent français. J'ai réalisé que les Indiens ne me comprenaient pas bien, donc finalement, j'ai changé mon accent en roulant un peu les airs, comme les Indiens le font avec l'anglais. J'ai réalisé qu'on se comprenait beaucoup mieux comme ça, et depuis, c'est très étrange. Parce que
photo together, comme ça, là, genre.
Together. Et donc, maintenant, quand je parle avec des Anglais, des Américains, je continue de rouler les airs, même quand je chante des chansons des Beatles ou n'importe quoi, je roule les airs aussi. Et puis, au bout de 3 ans, quand on a attaqué notre projet sur les lutteurs de Bénarès, on s'est retrouvé dans ce qu'on appelle un akara, c'est un endroit où on pratique la lutte sacrée indienne, la kusti. C'est un milieu qui est très masculin, très nationaliste, très hindou, pas loin d'être hindou intégriste. Et donc, finalement, personne ne parlait anglais là-dedans.
France, le Pays Basque, on est bien ensemble.
Elle est passionnée, Séverine, elle a plein de choses à nous raconter. Elle revient dans quelques minutes sur France Bleu Pays Basque. Dabadie, notre photographe, passionnée par l'Inde, il faut dire qu'elle séjourne 5 mois par an dans ce pays. Il y a quelques années, elle a d'ailleurs publié un livre de photos consacré à une forme de lutte indienne très peu connue. Et pour avoir accès à ce billet, on peut dire qu'elle s'est vraiment immergée. Séverine est avec Olivier Vinche.
Comme avec un interprète, le premier jour, je leur avais dit que je ne viendrais pas 2 ou 3 fois, mais certainement des dizaines de fois. et puis on a dépassé la centaine de fois parce que j'ai travaillé pendant 3 fois 6 mois. J'ai vite réalisé qu'il allait y avoir un problème de langue. Et donc, dès qu'on a attaqué ce projet sur les lutteurs indiens, je suis partie prendre des cours chez un prof. Donc, 2 fois par semaine, j'allais prendre des cours de hindi. Alors, il y a une 20aine de langues en Inde officielles, mais celle qui est la plus parlée, c'est le hindi. Et le hindi, c'est celle qui est parlée dans le nord de l'Inde et dans l'état de l'Uttar Pradesh où se trouve Benares. Le hindi est à l'oreille très proche de l'ourdou, qui est la langue des musulmans aussi. Donc, voilà. J'ai réalisé, en fait, qu'au-delà des portes que ça avait pu m'ouvrir au niveau de cet akara-là et des lutteurs, ça a été une démarche qui a été mais bénéfique à un point que je n'avais pas imaginé. Parler le hindi, même si je ne le parle pas parfaitement, il faut bien l'avouer, hein, je ne l'écris pas et je ne le lis pas non plus. Ça va s'arranger, ça, tout ça, avec le temps. Donc oui, pour des conversations de la vie quotidienne, oui, ça fonctionne bien. Et en fait, les Indiens sont très touchés par le fait que je fasse l'effort de parler leur langue. Ce qui m'intéresse en Inde, c'est pas d'avoir affaire aux Indiens qui parlent anglais et qui délibérément veulent avoir à faire avec des occidentaux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'Indienne de base qui n'a rien à voir avec le tourisme, qui vit son pays et qui ne souhaite pas forcément montrer son pays tel que les occidentaux voudraient le voir. Donc voilà, ça me permet d'avoir accès à tout un tas de temples ou de familles toutes simples qui nous ouvrent leurs portes. Et voilà, donc j'ai accès à des choses qui sont des petits secrets indiens.
C'est un peu la même démarche lorsque vous allez photographier les joueurs de la Shoah ou les marins de l'Airocha.
Oui, c'est-à-dire que en photographie, je pense qu'on doit insidieusement imprimer sa marque sur ce qu'on fait en photo, mais il y a l'obligation d'humilité là-dedans. C'est-à-dire que moi, je photographie pas pour montrer mon nombril, je photographie pour montrer le nombril des autres. Ce sont les autres qui m'intéressent et je veux parler de l'essence même du sujet que je photographie. Je vais le faire à ma manière, je vais essayer de l'interpréter à ma manière. Mais le fond des choses, c'est pas parler de moi, c'est pas ça qui est important. Et c'est se mettre au service du sujet. Alors quand on a 2 sujets, par exemple, qui traitent les 2 thèmes que j'ai essayé de développer sur le Pays Basque, que ce soit la pêche traditionnelle à bord de l'Airocha ou le lachoa, qui est la première des modalités de pelote basque et qui est complètement oubliée, qu'on ne retrouve plus que dans la vallée du Bastan, côté sud. J'essaie de parler de cette réalité-là qui tente de survivre, qui ne le crie pas, et moi je dois être, à votre manière à vous, une sorte de mégaphone, de porte-voix de ces gens-là. Donc voilà, j'essaye de me mettre complètement à la disposition de ces gens-là et de vivre avec eux. Par exemple, j'ai beaucoup de mal, moi, à faire un sujet comme ça. Si on me dit, voilà, tu vas aller travailler sur tel sujet pendant 1 semaine ou 2, moi, ça me va pas. En fait, je construis des projets sur des années. Parce que j'ai besoin de comprendre les gens, pas forcément juste avec le petit regard étonné et merveilleux qu'on peut avoir au début. J'ai envie de comprendre leur réalité, j'ai envie de voir les défauts et d'aimer ces choses-là, même avec leurs défauts.
Séverine Dabadi a déjà publié 4 livres de photos, le premier consacré à Bénarès et aux rites religieux auxquels les Indiens se livrent sur les bords du Gange, le 2e consacré à la lutte indienne, le 3e au jeu de l'Achoua, ancêtre de la pelote, et le tout dernier à la pêche professionnelle traditionnelle à bord du bateau l'Airocha. On retrouvera Séverine Dabadi demain sur France Bleu Pays Basque entre 13h30 et 14h. Nous allons retrouver dans quelques minutes sur France Bleu Pays Basque Séverine Dabadi. Photographe qui aime les rencontres. Alors pour réaliser son dernier travail, c'était un reportage sur la vie des pêcheurs à bord de l'Airocha, un bateau traditionnel du port de Saint-Jean-de-Luz. Séverine s'est d'abord adressée à Michael Epalsa, l'aumônier des marins. Puis elle a vu le patron de l'Airocha et l'équipage qui lui ont proposé d'embarquer. Croyez-le, Séverine n'a même pas été malade, même pas une petite nausée ou un mal au cœur. Elle raconte à Olivier Vinche.
Bon, effectivement, c'est pas non plus une grande matelote, mais j'ai quand même le pied marin, donc ouais, ça s'est pas produit. Et donc je lui ai dit, mais je ne vais pas venir qu'aujourd'hui, donc j'ai pris, il faut demander une autorisation aux affaires maritimes pour monter à bord et tout, et donc j'avais une autorisation pour les 2 mois, donc pour toute la campagne de pêche, donc je lui ai demandé d'embarquer vraiment plusieurs fois. Donc j'ai embarqué 10aines de fois, et j'ai vu un petit peu toutes les pêches qu'il faisait, c'est-à-dire que à ce moment-là, il y a de la pêche de nuit, et qui est la pêche qu'il pratique en général toute l'année, qui est une pêche de nuit à la bolinche, c'est un filet tournant, coulissant.
C'est pas évident de faire des photos dans ce cas-là.
Mais c'est pour ça, ça avait été très peu traité en fait. Moi qui bouffe des photos de tous les côtés et qui essaye de voir ça, j'avais très peu vu de photos du travail de nuit à la bolinche. Et effectivement, j'ai compris pourquoi, parce que c'est techniquement très 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 compliqué.
Le bateau bouge et en plus il n'y a pas de lumière.
Le bateau bouge et il n'y a pas de lumière et c'est assez complexe, donc il faut pas mal de patience. C'est aussi une manière,
de vivre la situation avec eux, c'est-à-dire que voilà, de rester avec eux le temps que le filet se remplisse de poissons, pendant qu'ils pêchent les chipirons, en attendant que le filet se remplisse, au milieu du filet, il y a une petite barque qu'on appelle la plate, avec deux grosses pottes qui sont censées attirer les poissons. Et donc, quand ils vont pêcher la pavidan, ils attendent des petits anchois et des petites sardines. Quand elles ont bien rempli le filet, hop, on resserre ce filet coulissant et il est relevé. Donc faire de la photo aussi, c'est partager le quotidien des gens pour le comprendre. Et une fois qu'on l'a compris et qu'on est plus émerveillé juste par l'image, mais profondément par tout le processus qui mène à cet acte qui visuellement va être intéressant, je pense qu'il est important de le vivre. Donc il était important pour moi de rester le plus longtemps possible avec eux sur l'eau et de voir les étapes qui allaient mener à la pêche au thon rouge, c'est une pêche particulièrement esthétique à voir. Donc après, j'ai choisi aussi des journées où on avait une belle lumière, j'ai choisi aussi des journées où le temps était plus maussade, on s'est retrouvé avec un coup de brouillard en rentrant, voilà, des choses comme ça. J'avais envie de vivre les choses telles qu'elles étaient, pas partir une fois au thon rouge, faire quelques photos jolies sur une mer bleue, comme ça, avec des thons qui jaillissent. J'avais envie que ça montre un peu toutes les étapes, j'avais envie que ça parle réellement d'eux. Ces pêcheurs-là, tout l'équipage, on a voulu leur rendre un grand hommage. Ce sont véritablement des gentlemen, des gens qui sont d'une poésie rare.
Ça peut être quand même des hommes aussi assez rustiques.
Ah non, mais c'est pas des chouchottes. Mais après, voilà, l'idée qu'on a du pêcheur, c'est le gars rustique, dur au mal, voilà, le regard plongé vers la ligne d'horizon. Ben, c'est bien plus que ça, le pêcheur aujourd'hui. Le pêcheur aujourd'hui doit faire avec des acédiques, les URSAF, les frais, l'entretien, avec la vie moderne. Donc c'est plus la pêche d'il y a 50 ans ou 100 ans. Et donc voilà, je savais pas trop de quelle manière j'allais être accueillie. Et ils m'ont accueillie avec une gentillesse rare. Non, c'est vraiment, je tiens à leur rendre un hommage à tous. Et ce sont des gens qui sont très loin d'être des gars rustiques. Non, 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 ce sont des gens qui sont ouverts, qui passionnément ont envie de partager leurs émotions, leur expérience. Et en fait, je suis très heureuse d'avoir à le dire, c'est des gens qui ont besoin et qui ont envie de la reconnaissance de tous.
Séverine est une personne entière et passionnée. Sa passion de la photo l'a conduit tour à tour en Inde ou au Pays Basque. Son dernier travail d'ailleurs traite de la pêche artisanale que l'on pratique encore à Saint-Jean-de-Luz. Séverine a embarqué à bord de l'Aérochat, un bateau de bois construit dans les années 60. Admirative du mode de vie de ses marins, elle défend leur pêche traditionnelle. Olivier Vinche l'a rencontré.
Dans cette époque où la pêche traditionnelle est marginale, où il est compliqué de vivre de la pêche traditionnelle parce que l'époque moderne fait que, voilà, on va aider plutôt les gros bateaux seineurs. Bruxelles va donner des quotas énormes à des immenses bateaux qui vont ratisser les océans. Je pense que cette petite pêche, elle est raisonnée, elle est raisonnable, elle est éco-responsable et elle a tout pour être dans l'air du temps en ce qui concerne un développement durable. Souvent on entend dire oui, les pêcheurs sont contre les écologistes. Non, je dirais que entre Greenpeace, le WWF, qui sont les plus écologistes dans le tas, j'ai l'impression que les pêcheurs de la pêche artisanale sont les dignes représentants d'une attitude éco-responsable. Tout le monde a tendance à mettre la pêche dans le même sac et quand je parler à mon entourage de la pêche au thon rouge, on me répondait toujours, mais le thon rouge, il est en voie de disparition, tout ça, il ne faut pas le pêcher. Le problème, c'est que, en fait, les pêcheurs du port de Saint-Jean, il y a 4 bateaux qui ont droit à avoir quelques quotas, sont des gens, bien sûr, qui ont été gênés par cette politique des quotas, qui ont vu les bénéfices restreints à cause de cette politique-là. Mais ce sont les premiers à dire aussi que le stock en richesse halieutique a largement augmenté et que le thon rouge n'est plus du tout en danger. D'ailleurs, Bruxelles vient à nouveau d'autoriser les gros seineurs à utiliser des filets encore plus grands, à se remettre à pêcher le thon rouge. Voyons maintenant si les quotas de ces petits pêcheurs-là qui ne font pas de mal vont être augmentés eux aussi. La pêche traditionnelle, non, elle doit être soutenue, elle doit être reconnue et mise à l'honneur, oui, bien sûr.
Donc vous la défendez. Comme vous le disiez, vous ne la défendez pas aveuglément en cherchant à faire que de jolies images, parce que si on feuillette cet album, il y a des images, bon, je dirais un peu choc, hein. C'est saignant, hein, à certains moments.
Ben, c'est saignant, mais c'est tellement bon à manger aussi, d'un côté. Si vous allez dans un abattoir, ça saigne aussi beaucoup, hein.
Le gamin, là, sur le bateau, alors c'est qui, ce garçon? sang. À un moment, il est couvert de sang. Hein.
Oui, mais si on regarde bien quelques autres photos, oui, ils sont tous couverts de sang. Ça saigne beaucoup. Après, le ton est rincé, puis ça devient plus propre.
Là où ça fait partie de la réalité.
Là où il y a du sang, il y a de la vie, quoi. Qu'est-ce que je veux dire ? Bon, le ton est un peu mort hein, aussi, hein, pour qu'on puisse le manger. Ça, faut bien le dire.
Oh,
mais le ton rouge est bien meilleur que le ton blanc. Et bien, je le répète à nouveau, le ton rouge est en train de voir toutes ses ressources se reconstituer et il n'est plus du tout en danger.
Puis Saint-Jean-de-Luz, c'est un symbole quand même, ce ton rouge aussi, un emblème de la cuisine locale.
Ça, c'est la richesse du port, c'est-à-dire que dans les années 50, quand les poissons ont fui la côte, c'était aussi l'après-guerre, donc la situation était un peu complexe, ils se sont retrouvés un petit peu embêtés. Et donc c'est comme ça que deux messieurs sont partis aux États-Unis, en Californie, retrouver les techniques de pêche qui, à la base, sont des techniques de pêche portugaises utilisées aux Açores, et qui est la pêche au thon rouge à l'appât vivant. Alors le problème de l'appât vivant, c'était comment le conserver vivant pour après pouvoir le balancer sur les bancs de thon. Et c'était ça le souci. À partir du moment où ils ont découvert cette manière de faire, ça a fait floresse sur le port de Saint-Jean. Et c'est là qu'ont commencé toutes les campagnes de pêche sur Dakar. Donc toutes les conserveries, et ça a été la grande époque, l'âge d'or du port de Saint-Jean-de-Luz.
Vous l'avez entendu, Séverine Dabadie est une passionnée. Son livre, Aérocha écume de mer, signé donc Séverine Dabadie et Christiane Echesareta, est paru aux éditions Elkar. Il y a aussi en ce moment une expo, Aérocha écume de mer, c'est à la librairie, qui se trouve tout près de l'office de tourisme de Cibourg, sur le quai Ravel.